Le journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Jusqu'à 100 heures de travail par semaine, qui supporterait de telles cadences? Les internes en médecine y sont contraints et ils n'en peuvent plus, en grève aujourd'hui et demain, pour ne travailler que les 48 heures prévues par leur statut. Rendez-vous dimanche, élections régionales et départementales, on vient d'en parler, gros plan sur les programmes. Ce matin, pas facile de s'y retrouver, vous allez voir. Mais pourquoi est-il aussi moderne? Alexis de Tocqueville et ses leçons sur la démocratie, le dernier volume de ses œuvres complètes vient de paraître. Cela méritait bien un grand entretien, Ali.
Tocqueville d'actualité, actualité de Tocqueville. On en parlera avec nos invités, la professeure émérite de littérature Françoise Mélogneau et les philosophes Géraldine Mosna-Savoie et Pierre-Henri Tavoyot. Pour intervenir, dialoguer avec eux, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Et ce matin, on parle aussi de la fraude aux allocations familiales, la fraude à grande échelle. Les CAF se dote d'une cellule d'enquête pour les traquer. Nous serons à Tunis, en Tunisie, où deux affaires de violences policières rappellent les sombres heures de la dictature de Ben Ali. Aux Pays-Bas, où l'on s'interroge sur le devenir d'un carrosse royal orné d'un hommage aux colonies. Et à Londres, où se jouera ce soir le plus vieux derby du monde, Angleterre-Écosse à l'Euro. Les supporters écossais sont déjà chauds comme la braise et ronds comme des queues de pelle.
France Inter.
Ils sont nos premiers interlocuteurs aux urgences et dans les services des hôpitaux. Ces internes qui nous palpent, nous envoient faire des examens et nous prescrivent des traitements plus ou moins supervisés par des médecins seniors. Les internes, fourmis travailleuses de la médecine après 7 ans d'études, appelez donc à la grève aujourd'hui et demain, 48 heures d'action. Pour ne pas travailler plus de 48 heures par semaine, ils les dépassent largement, Véronique Julia, au risque de l'épuisement, de la dépression et de l'erreur médicale.
D'après leur syndicat, les internes travaillent en moyenne 58 heures par semaine. Mais cette moyenne cache des excès parfois bien plus grands. Olivia, 26 ans, est interne en médecine d'urgence.
Moi, mon record personnel, c'est 96 heures sur une semaine.
Ce surmenage se paye cher. Olivia a fait un burn-out au mois de mars. Après quelques jours de congé, impossible de revenir travailler.
Je fais des crises d'angoisse, je fais des cauchemars. Et je me rends compte que tout ça, c'est toujours provoqué par le fait de penser à l'hôpital, au fait que je vais y retourner dans 3-4 jours.
Quand on travaille trop, c'est aussi le patient qui en fait les frais. Olivia le reconnaît. À cause de la fatigue, elle a fait des erreurs.
Ça m'arrivait plein de fois. Des erreurs ou des oublis dans les prescriptions, prescrire plus d'examens que ce qui est nécessaire parce que vous n'êtes plus en capacité de réfléchir. Quand vous êtes épuisé et qu'en plus vous êtes mal encadré et que vous êtes tout seul dans vos services, c'est pas optimal.
Si on en est là, c'est parce que l'hôpital manque de moyens et compte sur les internes. C'est aussi parce que souvent la hiérarchie n'y trouve rien à redire. Une maltraitance institutionnelle, dénonce Olivia.
Ce système fait des internes la variable d'ajustement des hôpitaux parce qu'on représente 40% du personnel médical. J'en veux beaucoup à ma hiérarchie de nous imposer ça sous prétexte que eux l'ont vécu. Ils s'en moquent.
Depuis le début de l'année, 5 internes se sont donné la mort en France et on ne compte pas, souligne Olivia, les burn-out et toutes les tentatives de suicide qui passent sous les radars.
Les internes qui manifesteront demain à Paris pour réclamer le décompte de leurs horaires de travail. La santé, voilà l'une des prérogatives des régions partagées avec l'État. Elle gère aussi les transports, les lycées, la formation professionnelle quand les départements ont la charge des collèges, de la voirie ou des bibliothèques. Enjeu très concret donc pour les élections de dimanche. Premier tour des régionales et des départementales. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
Vous vous êtes penché sur les programmes défendus localement. Rien à voir avec les lignes politiques nationales, alors pas facile de s'y retrouver Maxence.
Oui, qui propose la vidéosurveillance dans tous les trains? Le RN et la droite, mais aussi l'alliance PS-PC en Centre-Val de Loire. Une police régionale des transports. Le RN en rêve, la droite trouve sa démago en Normandie, mais l'a déjà lancée en Ile-de-France. Qui s'engage sur des produits locaux bio dans les cantines des lycées? Les gauches, oui. Le RN également dans certaines régions et la droite quasiment partout. Qui promet 1 million d'arbres plantés? Les Verts par endroit, les Marcheurs en Auvergne-Rhône-Alpes, LR dans le Grand Est. Offrir un PC portable à chaque lycéen. Promesse de gauche, oui, mais la droite l'avance aussi en Ile-de-France, en Normandie, comme la Macronie à Lyon.
Alors on imagine qu'il y a quand même des fondamentaux, Maxence. La gratuité des transports pour les moins de 26 ans par exemple, ça c'est bien un marqueur de gauche.
Et non encore raté, la liste LR En Marche le porte aussi en PACA. Regardons le soutien aux chasseurs, typique de la droite. Eh bien, soutien à la chasse populaire, écrit la socialiste Carole Delga à Toulouse. La suppression des petites lignes de train. Pas de fermeture de gare, lit-on partout. Mais qui sera le plus enclin à l'ouverture à la concurrence? Plus de maisons de santé, des panneaux photovoltaïques sur les toits des lycées, un guichet unique d'aide aux entreprises, mesures consensuelles que vous verrez presque partout.
Avec tout ça, Maxence, comment est-ce qu'on fait son choix?
Bon courage, il n'existe aucun outil comparatif, très peu de chiffres dans les projets. Muselier dit en PACA 20% du budget pour la sécurité, quid du reste? Quelles sont leurs vraies priorités derrière ces listes à la Prévert, ce marketing électoral et ces alliances dans tous les sens? Quels sont les bilans objectifs des présidents sortants au-delà des belles photos? Au final, ce sont les personnalités, les étiquettes nationales, les débats télé, radio qui vont peser et parfois juste un symbole. Une promesse 100% bretonne, corse ou alsacienne, une opposition aux éoliennes, à une ligne LGV, souvent un marqueur qui fait fi des compétences régionales.
Maxence Lambrecq, limier du service politique de France Inter. Plus de gros risques d'orage aujourd'hui, les vigilances de Météo France sont tombées. Hier soir, près de 40 000 foyers ont été privés d'électricité en Occitanie et la foudre a sérieusement blessé un enfant dans le Tarn quand un sapin est tombé sur la voiture dans laquelle il se trouvait.
8h06 sur France Inter, la suite du journal Florence Paracuelos. Trouver un job pour cet été, les étudiants sont en plein dedans quand ils n'ont pas déjà trouvé.
Et en voici un, tout nouveau, disponible pour la première fois cette année et sans doute pas l'année prochaine. Travailler dans un centre de vaccination, bon sang, mais c'est bien sûr. Celui de Chaville, dans les Hauts-de-Seine, vient d'embaucher une centaine d'étudiants, Mathilde Dehimi.
Le centre de vaccination a d'abord fonctionné avec du personnel des mairies de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray, vite relayé par des bénévoles. Mais voyant l'été se profiler, le centre s'est adapté, son responsable Étienne Cuny.
On a eu beaucoup d'étudiants qui nous ont appelés. Le critère principal, c'était des étudiants du territoire. Après, la mission qu'il leur est donnée n'est pas très compliquée, hein. C'est de l'accueil administratif, qui n'avait pas de grandes compétences à leur demander, et qui soit évidemment avenant avec les usagers.
Et pour 431 euros pour 3 semaines, à raison de 3 vacations par semaine, voilà Alice, 18 ans, au premier poste d'accueil.
Vous avez la deuxième, le 21 juillet à 15h49. Est-ce que vous avez besoin que je vous le note sur un papier pour vous en rappeler?
Elle a passé son année en école de commerce de Montréal à distance, ici en France.
Ça fait du bien, moi je suis contente de voir autant de gens parce que j'ai pas vu beaucoup de gens de toute l'année. Il y a ça et aussi on se sent utile.
Trouver un job d'été en aussi peu de temps était inespéré pour Marguerite, 20 ans, étudiante en sciences des organisations.
Je m'étais dit aussi que je pouvais essayer en tant que serveuse et tout ça.
Madame Chanazarion.
Mais je pense qu'il y avait déjà tous les anciens serveurs qui avaient été mis en chômage partiel qui étaient là pour reprendre. C'est vrai que c'est pratique parce que comme on est lâché assez tôt à la fac, c'est un peu compliqué de trouver cette année des stages et tout ça.
Les étudiants peuvent encore postuler, mais pour le mois de septembre, désormais, si le centre reste ouvert.
Et toujours moins de malades dans les hôpitaux, un peu plus de 11 000 hier, signe que la pression s'allège. La PHP, les hôpitaux parisiens viennent de lever le plan blanc déclenché en cas de situation exceptionnelle, ce qui était le cas avec cette dernière vague de Covid, évidemment. Et puis, autre signe de détente, la fête de la musique lundi prochain, un peu plus festif que prévu. Les mini-concerts dans les bars et les restaurants seront finalement autorisés, annonce la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Ils font disparaître des millions d'euros des caisses d'allocations familiales. On ne parle pas des simples fraudeurs, mais de véritables escrocs professionnels et organisés. Alors face à eux, les CAF s'organisent, elles aussi, avec une nouvelle cellule spéciale créée pour traquer les détournements. Noémie Bonin.
Quand la fraude artisanale devient délit organisé, il faut renforcer son arsenal. C'est l'idée de cette équipe de 30 agents choisis pour leur profil, spécialisé et complémentaire. Certains sont par exemple d'anciens gendarmes, policiers ou détectives, des informaticiens aussi aux compétences pointues, notamment dans la fouille de données, parce que cette brigade traque les escrocs professionnels, les mécanismes ingénieux avec des faux papiers ou des détournements de prestations à grande échelle. Agnès Basso-Fattori est la directrice générale déléguée de la CNAF.
On a un instigateur qui va contacter des gens par les réseaux sociaux pour finalement leur proposer ce qui est une arnaque, mais dans le but de récupérer une partie de l'argent que ces personnes récupéreraient. Sur des cas d'usurpation d'identité, nous avons pu avoir un cas où une seule personne a pu générer une fraude allant jusqu'à 90 000 euros.
Autre exemple, avec ce réseau qui réalise en série de fausses déclarations d'auto-entrepreneurs, le préjudice pourrait se chiffrer en millions d'euros. On est donc loin d'une triche individuelle sur un RSA ou une aide au logement. Nous sommes sur une forme de pillage du système, assure la CNAF. Reste à voir l'efficacité d'une petite équipe face à ce travail de titan, des fraudes qui en plus souvent se jouent des frontières.
37 000 fraudes aux allocations ont été détectées l'an dernier, cela représente moins de 0,3% des allocataires. Dernière heure de garde à vue pour Cédric Jubilard aujourd'hui, interrogé par les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse au sujet de la disparition de sa femme Delphine il y a 6 mois. L'enquête se concentre sur la nuit de la disparition, au sujet de laquelle il n'a pas tout dit, manifestement. On verra s'il est mis en examen ou pas à l'issue de cette garde à vue. À l'étranger, pas de suspense en Iran. Aujourd'hui, élection présidentielle à 4 candidats dûment sélectionnés par les gardiens de la Révolution, avec un archi-favori pour remplacer le modéré Rouhani. C'est l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi.
En Tunisie, voilà qui rappelle les heures les plus sombres du régime Ben Ali.
Deux affaires de violences policières qui ulcèrent les Tunisiens et jusqu'au président qui condamne les abus de plus en plus fréquents. Reportage sur place signé Maureen Mercier qui a rencontré la famille d'un jeune homme mort il y a quelques jours après avoir été arrêté dans la banlieue de Tunis.
La famille d'Ahmed, sous le choc, pour ses proches, aucun doute, la police l'a frappé à mort.
Ils l'ont frappé au bras, à la tête, au cou. Le sang coulait de son nez. Lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient allés trop loin et qu'il allait mourir, ils l'ont jeté dans la rue.
Le ministère de l'Intérieur dément qu'Ahmed soit mort de mauvais traitements. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En marge des funérailles d'Ahmed, un jeune est arrêté, entièrement nu, en pleine rue, frappé à terre, puis entraîné vers une voiture de police. La vidéo enflamme les réseaux sociaux. Ramzi Alaoui est sociologue. Il connaît parfaitement ces cités populaires comme Sidi Hassine, où trop souvent la police se déchaîne.
On a pu recueillir des témoignages de policiers du quartier qui nous ont affirmé que ces pratiques sont atroces. Mais quand on leur demande pourquoi ils ne font rien pour les arrêter, ils nous disent qu'ils sont incapables de faire face à cette violence structurelle et qu'ils ont peur des représailles.
À Sidi Yassine, depuis plusieurs jours, des heurts nocturnes ont lieu une fois la nuit tombée entre jeunes et policiers. Des manifestations pacifiques de jour aussi. Sidi Yassine, Maureen Mercier, France Inter.
La deuxième série d'affrontements entre Israël et le Hamas depuis le début de la trêve hier soir, comme en début de semaine, des ballons incendiaires ont été lancés de la bande de Gaza vers Israël, qui a répliqué en bombardant des positions du Hamas. Et puis de retour en fanfare, l'ancien président Laurent Gbagbo a regagné la Côte d'Ivoire sous les acclamations de milliers de supporters hier soir, après 10 ans d'exil et un acquittement de la Cour pénale internationale devant laquelle il était poursuivi pour crimes contre l'humanité. Aux Pays-Bas, c'est un carrosse qui fait débat, un joyeux maillot doré à l'or appartenant à la famille royale depuis plus d'un siècle. Il vient d'être restauré par le musée d'Amsterdam qui le dévoilera rutilant aujourd'hui, toujours orné de ce tableau, vestige du passé colonial de la Hollande. Angélique Bouin.
Nous sommes en 2015. C'est la dernière fois devant le Parlement que la foule acclame le couple royal confortablement installé dans le somptueux carrosse. Il est tiré par 8 chevaux, couvert de feuilles d'or, et sur toute la longueur de son flanc gauche, sous les fenêtres, il y a le fameux tableau. Appelé hommage aux colonies, on y voit des esclaves noirs, à peine vêtus, se prosterner devant leur maître et au centre, une femme blanche assise sur un trône. Fallait-il effacer le tableau, fondre le carrosse comme certains l'ont proposé, mais il n'y a qu'une fine couche d'or, ou bien l'envoyer définitivement et non provisoirement au musée. L'an dernier, en pleine polémique, le roi Guillaume Alexandre, son propriétaire, avait d'abord réaffirmé publiquement son opposition à toute forme de discrimination, avant d'ajouter,
on le restaure à l'identique. C'est une part de notre patrimoine néerlandais. Nous n'allons pas réécrire l'histoire lors de cette restauration. Dès qu'elle sera terminée, on réfléchira à la suite.
Alors que faire après du carrosse? L'exposition propose justement au public d'y réfléchir et de se positionner. Les partis politiques sont assez divisés. Aux Pays-Bas comme ailleurs en Europe, le débat récurrent sur le passé colonial et l'esclavage a ressurgi avec le mouvement Black Lives Matter venu des États-Unis. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Un genou à terre ce soir encore, les footballeurs anglais y tiennent contre les discriminations et malgré l'opposition de la ministre de l'Intérieur britannique. Mais là ne sera pas la question principale au stade de Wembley à 21h, où se jouera le plus vieil affrontement de l'histoire du football, puisque les Anglais ont rendez-vous avec les Écossais 149 ans après leur première rencontre. L'Écosse qui a perdu le premier match de son Euro, ce qui n'entame pas, vous allez l'entendre, l'excitation de ses supporters à l'arrivée à Londres hier, excitation pour ne pas dire autre chose, Richard Place.
Ça, c'est l'ambiance à l'arrivée du train. 4h30 de trajet depuis Édimbourg n'ont pas entamé la motivation de ses supporters. Ils ont les maillots, les drapeaux, pour certains, le kilt. Et c'est compliqué de les interviewer. Là, par exemple, au départ, c'est une interview de Drew, originaire de Dundee.
On Scotland's Day...
Where is this?
With the right for me...
France Radio?
Yes. On Scotland's Day...
For bonjour! Je m'appelle Becky. Allez, les bleus!
What's allez, les bleus?
Come on, France. Allez, les bleus!
Remarquez, ça marche aussi pour les Écossais qui jouent en bleu marine. Quelques bières et l'accent des Highlands, voilà qui rend parfois les échanges un peu compliqués. En se tournant vers une supportrice, peut-être pourra-t-on mieux comprendre.
So yeah, we need what the rest is, eh? Rain no happen. Oh, well, we're still here! But we'll be there! Go to Scotland!
Raté donc, mais on a bien compris l'essentiel, elle est motivée et soutient son équipe. Et Becky, celui qui chantait Allez les Bleus, a quelque chose à ajouter.
Les bookmakers ne croient pas en nous. On est à 9 contre 1, mais tout peut arriver dans le football. Et je vous garantis, si on gagne ou même si on fait match nul, on va retourner Londres.
London, upside down.
Ça, on a bien compris et on peut sans doute leur faire confiance. Londres, Richard Place, France Inter.
C'est vrai que même avec anglais première langue, on comprend pas, hein, on comprend pas ce qu'ils disent. Donc, autre match à suivre ce soir, 15h, Suède-Slovaquie, 18h, Croatie-République tchèque, sachant que les Pays-Bas et la Belgique se sont qualifiés pour les huitièmes de finale hier en battant l'Autriche et le Danemark.
Bon pronostic?
Quoi, pour ce soir, Écosse-Angleterre? Ah non, mais moi, je veux pas de soucis avec les Écossais. Ils sont trop chargés pour moi.
Merci, Florence. Tout de suite, la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Stéphanie Fromentin, la météo est encore bien instable au nord de la Loire aujourd'hui.
Oui, toutes les vigilances ont été levées, hein, les vigilances pour orages, mais les orages s'installent tout de même pour la journée au nord, avec une intensité plus forte sur le nord-ouest et l'extrême nord. Les pluies orageuses de cette nuit continuent donc de sévir ce matin avec de la grêle sous les orages violents sur tout le nord-ouest. Cette activité orageuse va se renforcer en début d'après-midi des Hauts-de-France au nord-est, gagner l'Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu'un corps pluvieux moins électrique apportera de bonnes pluies sur la basse Normandie. Des ondées sont aussi à craindre un peu partout sous un ciel bien nuageux, avec un orage isolé sur le relief des Pyrénées. Seule la région Rhône-Alpes et la Provence restent en marge de ce temps bien instable avec un ciel légèrement voilé entre la Provence et les Alpes du Sud, mais tout de même quelques entrées maritimes qui réduisent l'ensoleillement des côtes du Roussillon à la basse vallée du Rhône.
Et le mercure sera encore bien vaillant à l'est du pays.
Et les valeurs flirtent encore avec les 30 degrés. Le département du Rhône est maintenu en vigilance orange pour canicule. Il fera 31 degrés à Dijon, 34 à Strasbourg. À l'ouest, sous les orages, il fait déjà plus frais, 17 à 21 degrés. 17 à Cherbourg, 21 à Nantes. Et partout ailleurs, vous oscillerez entre 24 et 28 degrés. 24 à Rouen, 27 à Paris, 29 à Troyes.
Merci Stéphanie et merci d'écouter France Inter, 8h18, Géopolitique.